faut que je vous raconte à vous, mais aussi à Lucille Gomez qui est avec nous au téléphone en direct, je voudrais vous raconter quelque chose. Il y a 3-4 mois, nous avons eu un très beau témoignage d'une dame de 60 ans qui nous racontait qu'elle a eu 3 enfants et qui nous a raconté ses grossesses et ses accouchements, qui nous a raconté le bonheur que ça avait représenté, la difficulté de voir le nid vide, c'est-à-dire les enfants partir, mais aussi nous a raconté tout ça. Derrière ça est venu un témoignage de Célène. Célène qui nous a raconté comment son accouchement avait été un traumatisme. À un moment donné, elle a même utilisé un terme qui avait choqué certaines ou certains d'entre vous. Elle a dit « J'avais l'impression d'avoir été violée, on m'a poussée, j'ai dû pousser, on m'a forcée, j'avais peur et puis on a provoqué la naissance de mon fils. Et du coup, j'ai été comme traumatisée et ça a cassé quelque chose. » Elle nous a raconté aussi la difficulté à accepter cet enfant ensuite, de l'accompagner. Elle était toute jeune, elle avait 27 ans, Célène. Cette souffrance vous a, inspiré un certain nombre de messages à vous, mesdames, et l'une d'entre elles nous a signalé les livres de Lucille Gomez. Et comme on parle de curiosité cette semaine, eh bien on s'est dit que c'était important d'en parler avec elle, à l'occasion par exemple de ce dernier livre, La naissance en BD, tome 3, Propagez vos super pouvoirs, et on va en parler, et sans tabou. Alors que parfois, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Lucille, mais la naissance, il y a beaucoup de tabous tout autour de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tabous, pensez-vous? Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci de m'accueillir. Je pense qu'il y a beaucoup de croyances et que quand on sort de ce qui est de l'ordre de ce que l'on croyait, on a honte d'en parler. Voilà ce que je crois. C'est, on n'ose pas dire qu'on a vécu un accouchement traumatique à une amie de peur que de lui faire peur pour son propre accouchement. On n'ose pas dire qu'on a aimé son accouchement parce qu'on est censé accoucher dans la douleur. Tout ça il semble très paradoxal, mais je pense qu'il y a beaucoup de tabous parce que c'est un moment qui est à la fois universel. Tous les êtres humains ont vécu au moins leur propre naissance, mais en même temps hyper singulier. Et que donc, on se sent de l'ordre de l'intime, pratiquement. Donc, c'est à la fois intime et universel, mais on n'ose pas forcément trop en parler. Oui.
Dans son témoignage, Célène disait en substance qu'elle se réjouissait de ce moment-là, qu'elle voulait prendre le temps, et puis qu'on l'avait forcée, qu'on avait provoqué cet accouchement. Elle nous disait aussi qu'elle avait vu revenir la peur. À ce moment-là, est-ce que, et vous l'évoquez dans votre BD, dans votre livre, hein, l'ennemi numéro un du processus d'accouchement, c'est la peur.
Oui, ce qui est vraiment délétère au processus d'accouchement, c'est la peur, parce que les hormones de la peur sont antinomiques avec les hormones de l'accouchement, tout simplement. Pour que l'ocytocine qui provoque les contractions efficaces puisse être sécrétée, il ne faut pas qu'il y ait d'adrénaline, cortisone, qui sont les hormones du stress et de la peur. Et l'ocytocine, quand elle vient de manière naturelle et quand elle est sécrétée spontanément, elle s'accompagne toujours d'endorphine, qui est de la morphine endogène, et qui apaise les douleurs et qui apaise l'intensité. Donc ce cocktail ocytocine qui rend les contractions efficaces et l'endorphine qui les rend supportables ne peut pas exister s'il y a de la peur. Or, avec tu accoucheras dans la douleur, on vit déjà dans une culture qui nous insuffle la peur avant même d'être enceinte, en fait. Donc voilà, c'est difficile d'aller contre sa propre culture, mais en donnant plus d'informations, on peut redonner de la confiance, c'est ce que j'ai voulu faire en tout cas dans mes livres.
Qu'est-ce qui vous a justement, si vous me permettez cette question personnelle, Lucille, qu'est-ce qui vous a passionné dans le contexte de ce sujet, parce que c'est vraiment une passion telle que vous l'exprimez dans ce livre, où vous donnez tout plein de pistes, on va en parler, on va les évoquer, évidemment, on a le temps de le faire, hein. Ce sera peut-être aussi notre façon de remercier Célène pour ce qu'elle a eu comme courage de venir parler de cet accouchement qui a été traumatisant. Elle a dit clairement, à un moment donné, je ne veux plus avoir d'autres enfants. Qu'est-ce qui vous passionne, vous ?
Bah justement, ce qui me passionne, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et que malheureusement, le témoignage de votre auditrice n'est pas rare. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer une sage-femme au moment où j'étais enceinte de mon premier enfant. Et alors même que j'avais plein d'idées reçues sur ce que devait être un accouchement, je m'imaginais forcément accoucher, allongée sur le dos, aidée par toute une équipe médicale, etc. J'ai rencontré une sage-femme qui m'a donné des connaissances et qui était là le jour de mon accouchement, qui m'a permis de vivre quelque chose de complètement différent. Et je me suis rendu compte, après la naissance de mon enfant, que ce que j'avais vécu était très singulier, qu'il y avait beaucoup de femmes autour de moi qui avaient vécu des accouchements traumatiques ou en tout cas des accouchements qu'elles n'avaient pas forcément compris. Et quand on ne comprend pas ce qui nous arrive, on se sent dépossédé de son corps et donc c'est forcément beaucoup plus difficile que si on comprend et qu'on a l'impression d'être maîtresse de ce qui se passe, ou au moins qu'on est en confiance dans l'environnement dans lequel on est. Moi, je trouve ça passionnant, déjà parce que ça touche tout le monde. Chaque être humain est né, comme je l'ai dit tout à l'heure, et en plus parce que ça parle, la façon dont on accueille une nouvelle vie humaine parle de la façon dont on envisage l'humanité, je trouve, dans une société. Et donc, c'est à la fois un sujet féministe, humaniste, mais aussi politique. Enfin, voilà, c'est à la croisée de plein de chemins. Et c'est la façon dont on accouche aujourd'hui, c'est l'héritage d'une histoire. Enfin, voilà, donc je trouve que c'est passionnant. Et puis le fonctionnement du corps humain me passionne aussi, tout simplement. La physiologie est passionnante, je trouve, à connaître.
Et du reste, vous partagez tout ça, on sent bien votre passion. Hein. Par exemple, vous parlez de la poussée. On a souvent vu, lu, enfin pour ceux qui ont accouché, comme pour ceux qui ont assisté à un accouchement, ou pour ceux qui ont vu des films ou autres, ou des reportages ou des documentaires, on voit souvent « pousser, madame, pousser ». Vous, vous dites « il faut pas ».
Oui. Alors, il faut pas. Il faut bien aider ce bébé à sortir. Mais la façon dont on nous dirige lorsqu'on pousse, le fameux pousser, madame pousser, n'est nécessaire que lorsqu'on n'a plus de sensation, lorsque on a une anesthésie qui est assez forte et qui fait qu'on n'a plus ce qu'on appelle le réflexe de pousser. En réalité, quand on a une naissance sans intervention médicale, on n'a pas besoin de nous diriger. Notre corps sent qu'en pousser, c'est une sorte de l'ordre du réflexe, quoi. Le problème de la poussée en apnée, la poussée dirigée, qu'on va nous dire quand pousser, parce qu'on ne sent pas la contraction, donc on nous dit c'est maintenant, c'est le moment, poussez, madame, poussez. Le problème de cette poussée-là, c'est qu'elle se fait en apnée, elle nous fait pousser avec les abdominaux grands droits, et elle est très efficace pour sortir un bébé rapidement, mais elle est aussi, malheureusement, efficace pour descendre nos organes avec. Donc elle majore les risques de déchirure, les risques de descente d'organes, des joyeusetés comme ça. Alors que quand on a une poussée réflexe, on va avoir un souffle retenu, comme ça, un peu de l'ordre des grognements, qui n'est pas forcément facile de s'y abandonner parce qu'on n'est pas habitué à faire des bruits étranges comme ça. Et ça c'est très, très bon parce qu'en fait, ça protège nos organes. Ça remonte le diaphragme et ça remonte nos organes avec, tout en même temps, ça fait descendre le bébé. Donc, c'est exactement le même cri, c'est un cri puissant, un souffle de puissance, comme quand un tennisman fait un service et fait un comme ça, vous voyez, ou un travailleur de force qui va émettre un son comme ça. Donc voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas dire pousser, madame, pousser. C'est pas qu'il ne faut pas, c'est que si les choses sont accompagnées différemment, on pousse différemment et on n'a même pas besoin qu'on nous dise comment le faire en fait.
Alors, c'est intéressant parce que la peur, elle revient à plusieurs reprises dans votre façon d'évoquer, d'aborder les choses. Il y a par exemple la peur du cri, puisque vous en parlez, la peur cri qui se double évidemment aussi d'autres peurs comme la peur de faire caca, par exemple. Hein. Il y a beaucoup, oui. Finalement, excusez-moi d'aborder les choses comme ça, mais c'est vous le faites dans le livre.
Et
il y a quand même pas mal de peurs, hein. Finalement, tout au long de ce moment d'accouchement.
Oui, non, je vous pardonne complètement d'évoquer ça, parce que bon, c'est vraiment des tabous, c'est une partie des tabous que j'aime bien aller triturer, titiller et questionner. En fait, oui, il y a énormément de peur. Après, c'est normal hein, d'avoir peur de ce qui va se passer, parce que c'est quand même un événement très singulier, pas tous les jours qu'on accouche, c'est un inconnu. C'est normal, je pense, d'avoir peur. Mais les peurs inutiles qui sont liées à des croyances, c'est bien de les énoncer. Parce que, encore une fois, elles sont mauvaises, elles viennent d'une culture, elles viennent d'une histoire, elles ne sont pas forcément à leur bonne place. Et donc, je pense que c'est normal d'appréhender. Mais c'est bien de pouvoir, par les connaissances, faire le tri un peu dans ces peurs-là. Une fois qu'on sait, on a moins peur et on peut y aller avec plus de confiance et donc faire en sorte que les choses se passent mieux. C'est vraiment pour éviter la peur. Moi, j'ai voulu faire mes livres parce qu'avant, on avait peur d'accoucher. Aujourd'hui, on a peur des violences obstétricales. Oui. Quand on sait que la peur est délétère à l'accouchement, on me disait, bon, où peut-on réinsuffler un peu de confiance là-dedans, quoi.
Oui. Voilà. Vous évoquez un thème qu'on a souvent évoqué dans les témoignages, dans la ligne de cœur. Il y a eu pas mal de témoignages de femmes, effectivement, qui ont parlé de violence obstétricale. J'ai de la peine à le dire, mais de violence obstétricale. Oui. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup?
Alors, c'est un terme qui a fait son apparition, je pense, au début des années 2010. Il y avait notamment une juriste qui s'appelle Marie-Hélène Lahaye, qui a ouvert un blog qui s'appelait Marie Accouche-là, qui a mis vraiment sur le devant de la scène ces violences obstétricales comme étant un sujet féministe, en fait, comme le « mon corps, mon choix » devrait aussi exister au moment de l'accouchement, pas seulement pour la contraception, etc., mais aussi... nous devrions, les femmes, être aussi maîtresses de notre corps et décider pour nous-mêmes, même lorsqu'on donne la vie. Donc, ce thème a vu le jour, je pense, au début des années 2010, au moment où, en fait, moi, j'étais enceinte de mon premier enfant. Donc,
Oui. Vous dites aussi que, finalement, vous étiez choquée de réaliser à quel point vos amis étaient mal informés. Hein. C'est ce qui a généré votre envie d'écrire, de raconter, quoi.
Exactement. C'est-à-dire que j'ai vraiment eu la chance, moi, de rencontrer cette sage-femme, et ça s'est fait de manière presque fortuite, quoi. De bouche à oreille, on m'a raconté une naissance qui ne correspondait pas du tout à l'image cliché que j'avais, qui était étudiée dans la culture populaire à travers les livres, les films, etc. Je l'ai rencontré, j'avais plein d'a priori, je m'attendais à trouver quelqu'un qui m'aurait accueilli les pieds nus sur une terre battue, avec des fleurs dans les cheveux, des clochettes. Voilà, mais en fait, j'ai eu affaire à quelqu'un qui avait de l'expérience et qui était tout à fait sensé, en qui j'ai eu tout de suite confiance, qui m'a transmis des informations. Et c'est après avoir accouché que j'ai réalisé que vraiment, le manque d'informations créait des souffrances autour de moi, avait créé des souffrances autour de moi. Et en BD, c'était plus naturel pour moi de parler de ce sujet, parce que déjà, c'était mon métier avant, j'étais déjà dessinatrice, autrice de BD avant, mais aussi, ça permettait d'apporter quelque chose de ludique, de lumineux, de joyeux, de facile d'accès, qui me permettait de mettre un ton amical, comme si je parlais à ma sœur ou à une amie enceinte pour lui transmettre des infos, sans cette position un peu d'autorité qui aurait forcément, même sans le vouloir, un médecin ou quelqu'un du corps médical face à une patiente.
J'ai une dernière question, là, je suis très curieux, si vous me le permettez. pourquoi est-ce que votre personnage dialogue avec un chat?
Alors, en fait, ce chat, pour moi, est très pratique parce que ça permet un dialogue, déjà, comme vous l'avez dit, alors que sinon, c'est juste moi qui prends, enfin, mon double fictif qui prend la parole et qui donne un cours magistral. C'est pas du tout dans mon idée. Et puis, ce chat, c'est un peu mon alter ego, qui est facétieux, parfois un peu cinglant, quand le personnage principal part dans des envolées lyriques un peu, voilà, l'importance de l'amour, l'importance de la confiance, il vient un peu la remettre à sa place. Il exprime aussi la voix du commandeur mortel que j'étais juste avant de faire mes formations pour apprendre des choses sur la physiologie de la naissance. Il porte la voix de contradiction, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes, mais non, c'est pas comme ça, on le voit bien dans les films. Il vient dire tout ce que pourrait dire le lecteur ou la lectrice potentielle en lisant le livre, et ça permet quelque chose de rigolo. Et puis après coup, je me suis rendu compte, et ça, je l'avais pas fait exprès en amont, mais je trouve que ça correspond très bien, c'est un chat noir. Et il se trouve que la physiologie de l'accouchement, c'est le cœur de métier des sages-femmes à l'origine, même si elles ont parfois un peu perdu cette notion-là. Et les sages-femmes étaient au cœur, malheureusement, de ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Et les sorcières étaient souvent associées à des chats noirs, en fait. Donc, je trouve ça rigolo que ce soit, sans faire exprès, peut-être inconsciemment, je lui ai dessiné un chat noir comme si elle était une sage-femme qui transmet une connaissance méconnue et qui est un peu, le chat noir qu'on aurait voulu éviter et qui, en fait, se trouve être tout à fait affectueux et facétieux et amical. Je ne sais pas si j'ai été très clair.
Oui, c'était clair. Merci beaucoup, Lucile Gomez, d'être venue. J'espère que Selena a pu écouter ce soir ce petit moment de partage, la naissance en BD, tome 3, il y en a eu deux avant, puisqu'il y a un tome 3, évidemment, et puis on peut vous suivre un petit peu partout. Merci en tout cas d'être venu ce soir.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, merci.